are powerful. We run this
mother. La femme puissante est un genre de monstre.
Il n'y a pas à se réjouir qu'une femme ait du pouvoir.
Je vais le dire, t'as du clito.
Femmes puissantes, deux mots qui ne vont pas forcément bien ensemble. On dit qu'elles sont belles, charmantes, piquantes, délicieuses, vives, intelligentes, parfois dures, manipulatrices ou méchantes, mais on dit rarement des femmes qu'elles sont puissantes. Et pourtant, le moment est venu pour les femmes d'assumer enfin. Femmes puissantes, saison 2, 4 nouveaux numéros, avec une colonelle de gendarmerie, une maître du monde économique, une reine de Paris. Et ce dimanche, c'est la Beyoncé française qui est notre invitée. Bonjour et bienvenue à tous sur France Inter.
Femme puissante, Léa Salamé, sur France Inter.
Bonjour Léa.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté. Vous rentrez, vous, non ?
Bonjour.
Je vais là-bas.
Ok.
Vous me dites si vous avez froid dehors ?
Ok.
On est à l'hôtel, donc. Mm-hmm. C'est un hôtel que vous aimez bien, vous avez choisi ou...
Ça va, il est cool, ouais. J'ai à l'aise ici.
Ouais.
Ouais.
Cette femme est une énigme. Inconnue il y a encore 2 ans, elle est aujourd'hui la chanteuse française la plus écoutée dans le monde. Pour la sortie de son nouvel album, elle a eu droit à une affiche géante sur Times Square, le tout à 25 ans à peine. Bla, 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 bouquin. Si vous ne la connaissez pas, demandez à vos enfants. Elle est l'idole des gamines, mais aussi de Rihanna et Madonna qui se trémoussent sur ses chansons. Elle n'a pas les codes parisiens, mais elle s'en fout. Elle rend ses managers chèvres tant elle fait ce qu'elle a envie, quand elle a envie, plantant allègrement une émission télé 2 heures avant. Mais quand elle dit oui, elle est là, présente et même très sympa. Beaucoup veulent qu'elle soit une icône féministe, elle s'en défend. Icône des banlieues, même chose, passez votre chemin. Le phénomène Aya Nakamura est sur Inter aujourd'hui. Je suis gang, game, boy, ne joue pas bang, bang, bang. Aya Nakamura, si je vous dis que vous êtes une femme puissante, vous me répondez quoi ?
Je sais toujours pas ce que, en vérité, ça veut dire. C'est une femme qui s'assume. Ouais. Je pense qu'une femme qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, d'être elle-même, en vérité.
À quel moment de votre vie vous vous êtes sentie puissante ?
En fait, moi, le truc, c'est que je me suis toujours sentie libre de mes pensées. Dès le début de l'adolescence, on va dire, j'avais mes propres idées, mes propres choix. Et enfin, moi, je pars du principe où c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on a tort.
Mais d'où vous vient cette assurance, même adolescence ? C'est-à-dire, l'adolescence, c'est le moment où on doute vachement sur soi et tout ça. Et vous, on a l'impression qu'il n'y a pas eu le moment du doute, que vous saviez.
Ah, si, quand même. Mais le truc, c'est qu'après, j'ai appris à prendre beaucoup de recul sur moi-même. Vu que je suis très introvertie, me parler aussi à moi-même, me consoler aussi moi-même, des fois, même quand je suis très bien entourée. Et je trouve que ça fait partie du self-love, en vérité.
Pour ceux qui ne connaissent pas le phénomène Aya Nakamura, parce qu'il y en a qui habitent pas sur cette planète et qui ne savent pas qui vous êtes.
Toute la planète me connaît pas.
Presque, mais il y en a encore qui savent pas. On écoute nouvel album. J'ai donné mon cœur, je ne referai plus jamais. J'ai trop de rancœur, ça n'arrivera plus jamais. J'ai déjà donné, je ne referai plus jamais. Ouais, j'ai déjà donné, je ne referai plus jamais. Rihanna et Madonna adorent vos chansons, les chiffres autour de vous donnent littéralement le tournis. À peine sorti, votre nouvel album Aya est devenu le 3e album le plus écouté, pas en France, dans le monde entier.
Ah ok.
Genre vous saviez pas ?
Non.
Menteuse.
Non. Je savais pas du tout.
En une semaine, il a été écouté 35 millions de fois en streaming. Vous êtes aujourd'hui la chanteuse française la plus écoutée dans le monde, devant Edith Piaf. Vous êtes écoutée partout, dans toutes les capitales, à Mexico, à New York. Est-ce que ça, quand on affiche ces chiffres-là, vous vous dites, ça c'est de la puissance quand même ?
Ouais, ça pèse quand même. D'après, surtout avec l'heure du streaming, je me dis... Il y a aussi des sons qui m'ont aidé, quoi, genre Dja Dja, le feat avec Maluma, c'est quand même un plus.
Dja Dja, c'est ouais. La chanson qui vous a fait exploser, c'était ouais. Il y a 2 ans.
Déjà.
Le phénomène Aya Nakamura débarque avec ça. Oh Dja Dja, y'a pas moyen Dja Dja, j'suis pas ta cata Dja Dja, genre en katana baby tu donnes ça. Tu penses à moi, j'pense à faire de l'argent, j'suis pas ta daronne, j'te fais pas la morale, tu parles sur moi, y'a air. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Dans son Nakamura, je l'ai couché. Le jour où on se croise, faut pas tout faire. Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes.
c'est pas comme ça qu'on fait les choses.
À froid, 2 ans après, pourquoi elle a cartonné cette chanson? Vous savez?
Peut-être parce que j'étais moi-même et que je l'ai toujours été, hein, je pense. Mais on ressent peut-être ma personnalité. La vibe de la chanson, elle est cool aussi. Donc...
Qu'est-ce qu'elle dit cette chanson? C'est qui Djadja?
Pour moi, Djadja, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu un problème. Et...
C'est un homme.
C'est un homme.
Qui a un peu menti, qui a un peu...
Qui a beaucoup menti, quand même. Qui a beaucoup menti.
Qui a trahi.
Qui a essayé de me faire une réputation. Et moi, je lui ai répondu en chanson.
N'importe qui afficherait les chiffres de streaming, les chiffres de vente, tout ce qui vous arrive depuis 2 ans pèterait les plombs. Vous, on a l'impression que pas vraiment... Que vous restez zen, comme si au fond tout ce qui vous arrivait était normal.
Ah bon? C'est-à-dire que je reste zen?
J'ai l'impression que ça ne vous fait pas péter les plombs.
Bah, c'est quoi péter les plombs?
À 25 ans, c'est devenir fou, se prendre pour une diva.
Bah, c'est parce
que... Ou si
que...
vous pétez les plombs et vous prenez pour une diva.
C'est pas ce que certains disent. Bah après, je pense que certains pensent que je suis une diva, certains non, mais...
Vous êtes une diva? Vous faites non. Des caprices de diva? Vous êtes...
Après, il n'y a même pas de définition d'une diva, en vérité. Il n'y a pas de critères précis pour être une diva. Moi, je pense que j'ai toujours, on va dire, apprécié le salaire que mon public m'a donné.
Ça se paye en salaire, à votre avis?
Bah, pour moi, le travail, c'est tout ce qui se passe en studio, la création d'une chanson, écrire, etc. Et le salaire, c'est ce qu'on rend, hein, c'est-à-dire les concerts, les achats de CD, le streaming, tout ça.
Dans une de vos chansons, vous dites « Fais le taf et t'auras tout ». Il a fallu beaucoup travailler pour en arriver là. Vous avez beaucoup travaillé?
Ouais. Bah, ça demande beaucoup de travail, hein. Certains pensent que quand on va au studio, c'est juste de l'amusement, ou même sur scène, il y a le strass, les paillettes, alors que pour que tout soit bien fait, bah, il faut une certaine logistique et une bonne équipe.
Vous bossez beaucoup, vous êtes exigeante, vous voulez que ce soit parfait?
Non, pas forcément parfait, mais j'ai envie d'être à l'aise dans ce que je fais.
Ouais. Et vous l'êtes?
Ouais, carrément.
Vous dites « j'ai imposé mon univers musical et c'est ce dont je suis la plus fière ». Comment
ouais.
Vous le définissez, cet univers musical?
L'univers musical, justement, il n'y en a pas. Il n'y a pas de... Le truc, c'est qu'en général, les gens aiment bien mettre des étiquettes dans les styles musicaux des artistes, alors qu'on aime juste créer et sans forcément se dire « ah, mais ça, c'est du R&B, ça, c'est de la pop, ça, c'est du zouk ». Non, on écoute plein de styles différents musicaux et c'est ce qui fait ce mélange.
Vous n'aimez pas les étiquettes?
Non.
Vous n'aimez pas quand on vous met dans une case?
Bah, je pense que non, et j'ai jamais réussi à me mettre dans une case.
Par exemple, si je vous disais que vous êtes rappeuse, ça vous énerverait. Vous dites, je suis chanteuse, je suis pas rappeuse.
Bah, après,
c'est
je pourrais rapper plus tard, hein, mais pour l'instant, j'ai pas fait de son où je rappais.
Vous avez l'impression que les journalistes, c'est une facilité chez eux de dire elle est rappeuse, alors que pas du tout?
Ouais, un peu beaucoup. Ils sont un peu perdus, ça je comprends.
Les journalistes sont un peu perdus. Ça veut dire que les journalistes ne bossent pas assez.
C'est ça, ils bossent pas assez. S'ils allaient un peu plus dans la recherche et dans la curiosité, un peu plus curieux, bah, je pense qu'ils comprendraient beaucoup plus de choses.
Et sans forcément, une chanteuse jeune qui vient de banlieue, forcément c'est une rappeuse.
C'est ça, quand en plus elle a un peu de caractère, elle a un côté un peu rap, en plus elle fait des feats avec des rappeurs, c'est sûr que ça joue.
Alors que vous n'êtes
une chanteuse.
Et pas autre chose. Le Zap.
Est-ce que ça va?
Ce soir, un phénomène. Une chanteuse française qui, en un an, est passée du statut de révélation à celui de superstar. L'artiste française la plus streamée dans le monde, Djadja. Je le dis mal. Elle détrône Edith Piaf.
Tout ça, c'est arrivé en 2 ans.
Ouais, ça passe hyper vite.
Tout est arrivé hyper vite.
En tout cas, ici, t'es à 100%, Aya Nakamura, ouais. Je viens de te le dire.
On va passer une heure avec Aya. Oui. Aya, de retour. Aya Nakamura, évidemment.
Yes, c'est moi.
T'as finalement pas tant changé que ça depuis la dernière fois que je t'ai vu dans le studio de
Planète
Rap?
Bah non, hein, toujours.
Bah, toujours aussi magnifique. Comment ça va, Aya?
Ça va, très bien, merci.
Alors, depuis qu'elle est citée dans New York Times, je pense qu'elle a peut-être un petit peu pris la grosse tête.
Ça blesse, ça blesse, ça blesse, ça blesse.
Pourquoi est-ce que Aya Nakamura, elle est incomprise par les médias alors que toute la jeunesse l'embrasse?
Et je trouve que c'est bien d'avoir aujourd'hui des filles qui ont du caractère, qui se laissent pas faire. Elle remplit des salles, il y a des milliers de gens qui la suivent. Elle en a rien à foutre qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, très clairement, mais seulement elle veut qu'on la respecte. Et elle a raison.
Je suis plus en mode non, mais je suis dans mon coin en fait. Je suis chez personne, j'avance, je fais ce que j'ai à faire, je fais ma vie. Tant que je suis polie et gentille, ça va.
Nous, on a besoin de vous. On a besoin de vous entendre. On a besoin de vous entendre vous exprimer. Je voulais vous le dire. C'est pour ça que vous êtes là ce soir. Et c'est pour ça aussi que vous rencontrez Jean-Louis Aubert.
Je l'adore parce qu'elle est là. Elle s'exprime aussi au nom de beaucoup d'autres personnes.
En fait, moi, je trouve que cette musique-là représente vraiment Paris et la France, en fait.
Non, c'est, ça fait plaisir.
Je voudrais peut-être juste faire un selfie. Ça vous dérange pas? J'ai
bien
le droit
sûr.
Ou j'ai pas le droit?
On sait peut-être.
Non, mais juste un petit selfie. Moi, ça me ferait hyper plaisir parce que je pense que mes enfants, ils sont pas toujours devant la télé et ils vont jamais me croire que vous étiez avec moi ce soir. Donc, voilà.
Et moi.
J'arrive, Jean-Louis.
France Inter. Femme puissante. Léa Salamé.
Aya Nakamura. Écrire des chansons, ça a été votre manière à vous de prendre la parole. Vos chansons, c'était vos armes.
Ouais, parce que je suis pas quelqu'un qui... en tout cas, de base, j'étais pas quelqu'un qui exprimait beaucoup ses émotions, sa manière de penser. Du coup, j'ai... Avant tout, dans l'adolescence, enfin, je mettais tout par écrit. Et après, je me suis mis à chanter.
C'est-à-dire que vous aviez des petits carnets où vous mettiez vos idées?
Bah, je sais que j'avais mon carnet. Pour moi, j'appelle ça aujourd'hui journal intime, mais j'avais à cette époque-là, je voyais pas ça comme un journal intime. Je voyais ça comme un truc où je me livrais et je me disais bon, plus tard, je lirai ça et j'en rigolerai peut-être.
Et en fait, vous ne rigolez pas puisque c'est devenu des chansons, votre journal intime.
C'est devenu des chansons, ouais.
Ce qu'on lit aujourd'hui, ce qu'on écoute aujourd'hui, c'était vos journaux intimes d'ado?
Du premier album, journal intime, ouais.
Il y a votre voix, votre corps, il y a vos paroles aussi, qui ne sont pas lisses et qui ne sont pas gentilles, vos paroles.
C'est celle,
ouais, c'est celle d'une femme libre qui gère sa vie, qui assume son succès, son argent, ses envies sexuelles. Et les hommes ont intérêt à suivre. Je fais mon bif et je me débrouille toute seule. Ce que j'ai, je l'ai gagné toute seule. Est-ce que vous pensez que c'est ça aussi qui contribue à votre succès, à votre puissance? C'est l'image d'une femme qui s'assume, d'une femme forte, d'une femme puissante, d'une femme qui ne tremble pas.
Peut-être, parce que je demande rien à personne et que je reste le plus possible dans mon coin, on va dire.
Ça veut dire quoi, rester dans son coin?
C'est juste faire mes affaires. Enfin, je m'occupe de ce qui me regarde et c'est tout.
Mais pour que ça touche le cœur de tellement de jeunes filles, c'est bien qu'il y a quelque chose qui... c'est pas juste... Ok, vous avez une belle voix, mais il y a quand même quelque chose. Vous donnez de l'espoir, vous les faites réagir, vous les réveillez avec vos chansons.
Bah, je suis aussi une femme. Ça veut dire que j'ai peut-être eu les mêmes émotions. Enfin, certaines ressentent se voient aussi en moi aussi. Hein, ça joue. Hein.
Vous acceptez le fait d'être un modèle ou ça vous ennuie ou c'est trop lourd à porter?
Bah, je pense qu'à un certain niveau, ça peut être lourd à porter. On est quand même humain. Mais non, moi, ça me dérange pas d'être un support pour certaines femmes, avoir des conseils à travers mes chansons, c'est pas quelque chose qui me dérange plus que ça.
Qu'est-ce qu'elles vous disent, les jeunes filles, quand elles viennent vous voir ou quand elles
Ça dépend des messages. Des fois, c'est merci d'être telle que t'es, tu me rassures, tu m'as aidé à traverser cette épreuve-là. Je me dis, waouh, une chanson quand même, mais c'est fort.
Je voulais vous faire écouter la voix d'une femme qui s'appelle Christiane Taubira. Quand elle était ministre de la Justice, elle a reçu beaucoup d'insultes et d'insultes racistes. Et je lui ai posé la question dans Femme puissante. Je lui ai dit, mais est-ce que vous vous êtes sentie une victime sur ces insultes racistes? Et écoutez sa réponse.
J'ai été la cible de ces agressions, de ces violences. Mais je n'en suis pas une victime. Et en plus, je suis de plus en plus forte. J'ai une force étourdissante. Vous n'imaginez pas à quel point je suis forte. Vous n'imaginez pas à quel point je suis forte.
Elle m'a fait penser à vous, c'est-à-dire qu'on a l'impression que vous ne voulez pas apparaître comme une victime. Quand on vous parle de la banlieue, vous dites « Attendez, moi j'ai pas souffert, c'était bien la banlieue, ça va ».
Bah, le truc c'est que oui, il y a un décalage entre un milieu plus ouvert et plus bourgeois que la banlieue. Mais moi j'ai pas eu une enfance difficile en me disant « On manque de culture, on n'est pas assez aidé, on n'est pas assez soutenu, c'est la misère ». Oui, il y a des trucs un peu plus difficiles qui sont dans tous les quartiers, mais il faut pas voir ça comme... moi j'ai pas vécu ça comme une enfance négative.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a freiné?
Bah pour une femme, c'est sûr qu'il y a des freins. C'est plus difficile. C'est un milieu d'hommes déjà. Il faut savoir s'imposer. Moi, j'ai commencé, j'avais 18 ans, 19 ans. Je connaissais pas forcément tous les vices, tous les rouages du milieu. Et du coup, on s'accroche à tout ce qu'on peut. Et c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça peut péter.
C'est-à-dire?
Bah, il peut y avoir des embrouilles où on n'est pas d'accord. Du coup, on change d'équipe, on change d'équipe de management. On se retrouve toute seule, on se retrouve un peu perdue. Il y a le manque de confiance en soi. Et je pense que c'est ces épreuves-là qui ont fait que je suis cette personne aujourd'hui.
Vous avez manqué de confiance en vous?
Bah, bien sûr.
C'est vrai?
Mais ça arrive à tout le monde.
Non. Parce qu'on a l'impression que vous avez dépassé, vous avez, à 25 ans, ce que vous avez fait, il faut avoir sacrément de l'assurance et confiance en son bah, étoile pour y
arriver. Moi, je pars du principe où, pour atteindre une certaine maturité, il faut passer par plein d'épreuves, hein. C'est sûr que tout ne vient pas comme ça d'un coup et je suis née en guerrière mentale, comme ça. Non. Je suis passée par plein d'étapes, il m'est arrivé plein de broutilles et je pense que ça m'a renforcée.
Qu'est-ce qui vous donnait la force de dépasser les obstacles ?
Bah, je me dis, c'est soit tu tombes et tu restes par terre, soit tu te lèves et tu continues à avancer. Hein.
Mais vous étiez aidée ? Est-ce que, par exemple, autour de vous, votre mère, vos sœurs ?
Bah oui, j'ai eu quand même ma famille, ma mère, mes amis, ça a joué, hein, c'est sûr. Hein.
Elles vous ont aidée à
toujours... Ouais, toujours soutenue, et même aujourd'hui.
Alors, à chaque femme puissante, je demande un objet qui incarnerait la puissance. Vous avez choisi quoi?
J'avais dit quoi? Téléphone? Bah oui, parce que je fais tout avec. Je note mes rendez-vous, j'écris mes chansons, je crée mes chansons par rapport à mes téléphones, je reçois tous mes mails, j'ai mes réseaux sociaux, donc ouais.
Téléphone. Vous passez des heures sur votre téléphone?
Non, avant ouais, mais là non.
Vous arrivez à couper?
Maintenant ouais, il faut. Ça peut être un objet de pouvoir, ça peut être un objet de... On peut devenir addictive à ça, donc c'est dangereux aussi.
Aujourd'hui, la puissance se mesure aussi au nombre de likes, au nombre d'abonnés qu'on a sur les réseaux sociaux. Vous, je crois que vous en avez 2 millions sur Instagram.
Ouais.
Combien sur Twitter? 1 million plus?
Je sais pas, 900 et quelques, un truc comme
ouais.
ça.
Ouais. Sans ces millions-là de followers, d'abonnés, comme on dit, mm-hmm. est-ce que vous seriez aussi puissante? Ou est-ce que ça contribue à la puissance?
Bah, je pense que, me concernant, ça a contribué parce que j'ai commencé sur les réseaux sociaux et il y a une grosse force aussi de communication. Hein. Faut, je pense, à l'ère où on est en 2020, un artiste se doit de communiquer avec ses fans, c'est-à-dire faire des lives, poster des photos. Il y a un peu ce truc de lifestyle que les gens aiment boire aussi, parce qu'on est curieux. Enfin, tout le monde est curieux et je pense que ça joue aussi.
C'est-à-dire que vous ne pourriez pas faire ce que vous faites sans avoir votre présence sur les réseaux sociaux?
Non, je pense pas. En tout cas, pour un artiste. Hein.
J'ai lu qu'avant d'écrire vos chansons, de vous exprimer dans vos chansons, vous vous sentiez incomprise, vous vous sentiez à part, vous vous sentiez peut-être un peu différente, c'est vrai?
Bah, je me suis toujours sentie à part, hein. Dans ma manière de penser, de voir la vie en général. Mais depuis petite, j'avais toujours remarqué que je pensais pas comme les autres enfants. Même aujourd'hui, je suis pas forcément... bling bling ou j'ai pas les mêmes sujets de conversation que les autres filles, enfin même les centres d'intérêt, on va dire. Moi je suis plus famille et tout ce qui est vraiment simple. Et par exemple je sais que mes sœurs elles sont plus oh t'as vu un tel dans les ragots, dans les trucs de filles en général. Hein. Et bon.
Vous dites même vous étiez un garçon manqué. On a du mal à vous croire comme ça quand je vous regarde. Vous êtes imposante, vous êtes pleine de forme et vous êtes
Merci,
très sexy.
Mais
je vois pas trop le garçon quoi.
Non, peut-être garçon manqué dans mon caractère, parce que j'étais un peu trop rentre-dedans étant plus jeune. Dès que j'étais pas forcément d'accord, j'allais directement à l'affront, genre je voulais affronter quelqu'un ou... Ouais, j'étais comme ça. Et maintenant, je me suis, on va dire, calmée, adoucie.
Pas toujours. Quand vous êtes pas contente, vous le dites aussi.
Bah, d'une certaine manière quand même. Je suis pas sauvage...
Non, vous n'insultez pas.
Non.
Vous êtes cash.
C'est ça.
Ça ne fait pas longtemps que je me dis que je ne suis pas bizarre.
J'ai dit ça ?
Vous vous pensiez bizarre ?
Non, décalé. Et après, au final, je me dis, bon, chaque être humain est différent. Il faut se dire qu'on n'est pas forcément dans les normes de la société, mais on est bien dans ses baskets.
Pourquoi vous ne seriez pas dans les normes de la société, vous, par exemple? Vous l'êtes?
Ouais, je pense que je le suis à un certain stade, mais musicalement, non, je trouve pas.
Pourquoi?
Parce que j'ai toujours fait les choses à ma manière, sans forcément suivre les codes, on va dire. Et je pense que même dans mon équipe, ça se ressent un petit peu.
Vous les fatiguez un peu, votre équipe, parfois?
Non, ça va. Franchement, ça va.
Sur le côté incomprise, au début, c'est vrai qu'il y a eu des malaises avec les grands médias mainstream, les médias de vieux, vous diriez. Des interviews qui passaient mal, on vous demandait de traduire vos phrases, de traduire des mots d'argot. Ça vous a gêné qu'on vous dise « mais ça veut dire quoi ces mots et tout ça ?»
Bah non, quand c'est intelligemment demandé. Bien sûr, mais quand on ressent un peu le côté snob ou d'un moment, c'est sûr que on se dit ouais bon, ça suffit en fait. Si t'es vraiment journaliste, tu sais ce que ça veut dire, tu l'as vu dans plein d'interviews, tu peux pas me demander aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire alors que tu le sais très bien. Enfin, c'est, moi je le ressentais plus en mode vas-y, raconte tes conneries là, vas-y, tu racontes quoi dans tes chansons.
Vous aviez l'impression que vous étiez méprisé par la journaliste en face.
Mais totalement. Ouais.
Qu'on vous snobait.
Bah, moi j'avais je ressentais surtout le côté ça va être le phénomène du moment, ça va rester un an, deux ans et on verra ce que ça donne plus tard, mais bon, on veut savoir ce qu'elle raconte parce que c'est pas du tout français, alors que dans ce que je dis, il y a quand même une double culture, c'est un langage qui vient des quartiers et c'est un langage qui est beaucoup parlé aussi par les jeunes.
Et c'est du français.
C'est du français modifié, mais c'est quand même un langage qui est utilisé par beaucoup de personnes de ma génération et même plus jeunes. Et je comprenais pas pourquoi c'était autant méprisé. Tout.
Alors, il y en a un qui trouve ça formidable que vous inventiez des mots.
Ouais.
C'est un député La République En Marche. Vous l'avez entendu, lui ?
Ouais, j'ai vu, ouais.
La richesse de la langue, c'est sa créativité. Quand je vois des jeunes comme Aya, comment s'appelle-t-elle ? Nakamura, qui aujourd'hui, par sa chanson, est en train de réinventer un certain nombre d'expressions françaises, ça me paraît absolument remarquable. C'est-à-dire qu'elle est en train de porter au niveau international de nouvelles expressions et d'évolution de la langue.
Alors ?
Waouh ! Enfin !
Vous vous rendez compte qu'à l'Assemblée nationale, un député qui dit... Alors bon, il n'avait pas complètement retenu votre nom de famille, mais...
Il a déjà bien dit, c'est trop cool.
Et surtout, il dit, c'est remarquable, puisque vous êtes une ambassadrice de la langue française, à votre manière.
Comme je pense beaucoup d'artistes, hein, à Laurent. Parce que chaque artiste a son parler. Comme j'ai dit, pour moi, c'est de la double culture et ça joue parce qu'il y a aussi l'afro qui est en train de s'exporter de plus en plus dans le monde. Je viens d'Afrique, j'ai grandi en France. Il y a ce mélange de tout ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis Aya Nakamura.
J'ai dit que vous étiez la chanteuse française la plus écoutée dans le monde, mais c'est pas tout à fait vrai en fait, parce que vous n'êtes pas française. Vous n'avez pas la nationalité.
Non, je suis malienne.
Pourquoi vous l'avez pas demandé la nationalité française ?
Je sais pas.
Vous allez le faire ou non ?
Bah peut-être, bah c'est quand même un plus.
Vous vous sentez plus française ou malienne ?
Parisienne.
Pas mal. Donc vous vous sentez française aussi ?
Bah d'un côté un peu, ouais, quand même.
Vous savez que dans les manifestations contre les violences policières, il y a quelques jours, j'ai vu des pancartes avec votre visage.
Ouais, j'ai vu aussi.
Et le slogan « Aya pour 2022 ». Il y en a qui vous voient présidente de la République, vous avez vu ça ?
Ouais, mais moi je vois ce genre de ça à lieu. Enfin, pour moi c'est quand même ironique un peu. Enfin, c'est gentil, hein. Mais j'ai jamais pris position politiquement. Je me suis, on n'en est pas encore là.
Ah, on n'en est pas encore là. Donc peut-être.
Bah, peut-être. Hein, bah, on ne sait jamais de quoi la vie est faite.
Mais... Il y a des choses qui vous indignent.
Il y a trop de choses. Bah, comme beaucoup de personnes, il y a plein de choses, hein. Mais je saurais pas par quoi commencer.
Est-ce qu'il y a des choses qui vous donnent envie de vous engager ou pas vraiment?
Pour l'instant, pas vraiment. Je pense que il va falloir que... Moi, non, pas pour l'instant.
J'ai lu que les Gilets jaunes, ça vous avait touché.
Bah, les Gilets jaunes avaient chanté une chanson...
Ouais, ils avaient repris Dja en disant « Macron,
par rapport à
Macron, casse-toi ».
Et ensuite, il y a eu le Covid. Après, il y a eu les violences policières.
Alors, sur les violences policières, vous avez réagi. Vous avez, sur Instagram, publié, je crois, la vidéo du tabassage de Michel Zecler.
Ouais.
Pourquoi vous avez voulu le faire, ça ?
Parce que c'est pas la première fois que je tombe sur ce genre de vidéo, même si c'est pas... Enfin, personnellement, je pense que... Enfin, j'ai pas eu le temps forcément d'aller à la marche, etc. Je pense que c'est un soutien aussi moral à cette personne. Enfin, se faire tabasser comme ça...
Ça vous a choqué ?
Bah oui, parce que ça peut m'arriver. Ça peut arriver à mon frère ou à un de mes enfants plus tard. C'est pour ça que j'ai soutenu cette personne-là. Et je pense que toutes les minorités doivent être... touché.
Est-ce que vous avez l'impression que les Noirs sont suffisamment, on les voit suffisamment à la télévision, par exemple, ou au cinéma en France ?
Un peu, quand même, ouais. Après, ça dépend sur quel point, mais sur quel genre de rôle ont les Noirs, mais je pense que, ouais, il y a quand même beaucoup de Noirs au cinéma ou à la télé.
Par contre, quand on vous dit t'es l'une des seules femmes noires à la tête des charts, ça vous énerve, ça ?
Bah oui, parce qu'à chaque fois, rappeler ma couleur de peau, c'est bon, je suis au courant que je suis noire. Alors, à chaque fois, me dire alors, qu'est-ce que ça te fait d'être la seule noire, etc. Je me dis, moi, ça me fait... Enfin, à l'heure d'aujourd'hui, je vois beaucoup plus de filles de la même couleur que moi qui commencent à chanter, qui commencent à aller dans plein de projets et je suis contente, hein. Les choses évoluent et j'arrive pas en mode je suis la noire qui va venir casser tous les codes et vous allez voir ce que je vais vous faire. Non, il y a plus de... Moi, je suis plus en mode Il y a les filles de ma communauté qui sont derrière moi et qui me soutiennent. Et j'ai envie de... Si aujourd'hui, je peux être un exemple et les pousser à être ce qu'elles ont envie d'être, c'est un plus.
Omar Sy, justement, il a parodié votre chanson « Doudou ». Ça vous a fait marrer ou pas ?
Bah ouais, c'était un... J'ai vu toute la polémique autour de lui alors que...
Alors on a dit qu'il était raciste.
Bah c'est quand même son ancien rôle Doudou. Moi j'ai vu ça comme un clin d'œil. J'ai pas compris pourquoi à chaque fois, dès qu'il a posté cette vidéo, tout le monde l'a... Enfin certaines personnes l'ont mal pris alors que il fait beaucoup de choses aussi pour aider la communauté, pour aider les minorités, pour aider les gens malades, en précarité, etc. Enfin j'ai pas compris. Ouais. Moi j'ai bien aimé sa vidéo.
Parlez-moi doudou, ouais. J'aime-moi, c'est tout, ouais. Montrez-moi, c'est tout, ouais. Parlez-moi doudou, ouais. Parle français, sois clair.
Ça me rappelle service après-vente, en fait.
Oui, c'est ça qu'il a repris les codes du service après-vente sur Canal.
C'est ça dans ma tête. Quoi ? Je veux faire la fête.
Donc vous étiez plutôt fier qu'Omar Sy le fasse.
Bah c'est Omar Sy quand même. Moi je suis quand même en mode ah ouais, genre le canon, le mec il reprend ma chanson et il la reposte sur Twitter, c'est qu'il apprécie et ouais.
Vous lui avez envoyé un petit mot ?
Non, c'est vrai que j'ai pas envoyé un message mais je devrais le faire.
Pour le remercier ?
Quand même, ouais.
Pour lui dire que ça vous a fait marrer ?
C'est vrai, ouais. Peut-être que lui aussi pense que je suis fâchée alors que
pas du tout. Bah non. Bon, on va lui envoyer.
C'est vrai.
Aime-moi doudou. Montre-le-moi doudou, t'es mimi, dis-le-moi doudou. Prouve-le-moi doudou, et ça c'est quel comportement doudou. Tu me mens beaucoup, ça c'est quel comportement doudou. Tu me mens beaucoup. Là c'est clair, il me fait tomber. Je le vois, laisse tomber. C'est qu'il est frais, je vois flou. J'aime quand t'es là, c'est tout. J'ai dit oh. Français, sois clair, en vrai. J'ai passé l'âge de jouer, j'ai dit. Toi et moi, on se sait. N'en fais pas trop, s'il te plaît. On perd déjà du temps à tester nos limites. La présence coûte cher, dis-moi quel est mon bénéfice. En moi, tu pourrais voir nos projets et l'avenir. Mais nous brûler les ailes, il faudrait éviter. Aime-moi, doudou. Montre-le-moi, doudou. T'es mimi, dis-le-moi, doudou. Prouve-le-moi, doudou. Et ça, c'est quel comportement. Tu me mens beaucoup. Les soirs venus, faut qu'on se mette à l'aise, ouais. Sinon laisse tomber. Tu peux chercher, elles n'ont pas le verre. Chérie, laisse tomber. Les soirs venus, faut qu'on se mette à l'aise, ouais. Sinon laisse tomber. Tu peux chercher, elles n'ont pas le verre. Chérie, laisse tomber. Les rageux nous pistent. Longue est la liste. Vérité, ce qu'on veut. J'ai barré tous les dalles. Maintenant, à nous deux. Eh, il est dans ma tête. J'ai le cœur à la fête. J'crois bien qu'on est en osmose. Faut que ça s'arrête jamais. Non, jamais. Aime-moi, doudou. Montre-le-moi, doudou. T'es mimi, dis-le-moi, doudou. Prouve-le-moi, doudou. Et ça, c'est quel comportement, doudou. Tu me mens beaucoup. Ça c'est quel comportement doudou. Tu me mens beaucoup. Les soirs venus faut qu'on se mette à l'aise, ouais. Sinon laisse tomber. Tu peux chercher, elles n'ont pas le verre, ouais. Chérie laisse tomber. Sinon laisse tomber.
C'était Doudou d'Aya Nakamura qui est dans la playlist d'Inter.
Femme puissante sur France Inter.
Aux États-Unis, pour la première fois, une femme accède à la vice-présidence. Elle s'appelle Kamala Harris.
Peut-être que je suis la première femme à occuper cette fonction, mais je ne serai certainement pas la dernière. Ce soir, chaque petite fille qui regarde la cérémonie a la preuve que dans ce pays, tout est possible.
Ça vous a évoqué quoi, l'arrivée d'une femme ? Pour la première fois vice-présidente des États-Unis.
Bah, je pense que c'est un grand pas en avant et ça motivera toutes les petites filles à avoir un exemple comme femme et que c'est pas forcément qu'un métier d'homme.
À quand une femme présidente de la République en France ?
Bon, on a failli avec Marine Le Pen.
Ah oui.
Je sais pas, je pense que ça va venir. Hein. Aujourd'hui, je vois plein de femmes dans la politique. J'en vois de plus en plus.
L'idée de modèle, ça vous...
En fait, c'est assez difficile parce que j'en ai pas... J'ai grandi avec ma mère. J'ai eu ma mère comme modèle, mais j'ai jamais été fan d'une femme ou eu comme modèle, une femme en dehors de ma famille en modèle.
Même Oumou Sangaré.
Oumou Sangaré, j'étais fan. Enfin, j'étais parce que ma mère était fan et du coup, j'ai grandi en voyant cette femme comme une espèce de déesse.
Ah ben voilà, quand même.
Africaine. Ouais. C'est plus tard où je me suis dit ah oui, en étant chanteuse, c'est un modèle. Mais en voulant être elle, non, jamais.
Oumou Sangaré, c'est l'immense chanteuse malienne, on l'écoute. Je suis impressionnée par sa voix, par sa carrière, mais aussi par son côté businesswoman.
Ouais. Et par aussi, je sais qu'elle aide beaucoup de femmes en Afrique. Moi, en étant adolescente, j'ai connu l'excision.
Ouais.
Et du coup, ça m'avait choquée. Et j'ai su qu'elle aidait ces femmes-là. Et peut-être qu'aujourd'hui, je serais amenée à faire le même combat, c'est-à-dire aider ces femmes-là, à se lever, à les porter, à les soutenir, à les aider, même. Avec des médecins, je trouve que c'est important. Ouais. Je la trouve hyper ouverte d'esprit par rapport à l'époque. Dans les thèmes des chansons, quand même, elle était libre dans ce qu'elle disait, quand même, je trouvais.
C'est elle aussi une femme qui s'assume.
C'est ça, ouais.
Comment vous avez connu l'excision ?
Bah, je suis tombée sur un documentaire chez moi.
Vous aviez quel âge ?
Je devais avoir peut-être 14-15 ans, je crois. Mais j'ai vraiment vu ça à grandeur nature, mais en vrai, je me suis dit, du coup, j'ai demandé à ma mère, mais maman, c'est quoi ça, tu vois? Et elle m'a expliqué, et j'étais quand même choquée. J'ai dit, ça veut dire que ces femmes-là, genre, elles ressentiront jamais de plaisir, elles apprécieront peut-être pas leur grossesse ou même l'accouchement. C'est comme si on te tuait de l'intérieur, en fait.
Et donc, ça vous a révolté, ça, par exemple?
Même aujourd'hui, hein, ouais.
Et vous dites, ça pourrait être une cause dans laquelle je m'engagerais?
Ouais.
L'excision aider les femmes africaines.
Bah, je sais que ça se fait dans des endroits un peu perdus, ça veut dire dans des villages ou pas dans des grandes villes. Je pense que ces femmes-là ont besoin d'aide et des recours médicaux.
Oumou Sangaré, elle assume aussi son côté businesswoman. Vous aussi, très vite, vous dites, je rêvais de faire de l'argent.
Parce que je me suis toujours dit, avant de tout le monde rêve de mariage, de faire des enfants, moi je rêvais d'avoir ma maison, en fait. Moi, je rêvais d'avoir ma baraque et d'être bien chez moi, d'avoir mon petit cocon, d'avoir ma déco et tout. Je pensais toujours à ça et ouais, et c'était l'argent, c'était primordial, c'était la base. Ça permet tout, ça permet de se réveiller le matin en se disant bon, ah ok, j'ai ces factures là, bon, je peux les régler et ça enlève des soucis.
Aujourd'hui, vous avez de l'argent forcément. Mm-hmm. Vous avez envie de vous en faites partager ceux qui sont en
essai. Et ouais, aussi de faire partager mon entourage, ma famille, profiter. Et que même plus tard, ma fille a une vision de l'argent plus ouverte. Parce que je sais que moi, j'ai pas grandi avec cette... Enfin, mes parents m'ont pas éduqué en me disant que va chercher ton argent et tu verras, tu pourras faire tout ce que tu veux. Et tu sais qu'en étant... cultivé, en ayant plein d'argent, tu auras tout ce que tu veux. Ça vient de moi. Et j'ai envie que mes enfants, ma fille, grandissent déjà avec des bonnes bases.
Vous en avez manqué de l'argent, enfant ?
C'était pas quelque chose que j'avais remarqué, mais par exemple, moi, j'avais pas d'argent de poche. J'avais pas de... Il a fallu que j'aille travailler toute seule et j'ai commencé à l'âge de, on va dire, 17 ans, 18 ans. Allez, hop ! À l'intérim, il fallait chercher son argent. Et c'était pas forcément mon fort, mais il fallait que je me démerde.
Donc l'argent participe de la puissance d'une femme.
Quand même, je pense.
Ouais. Il y a une autre femme qui inspire beaucoup, beaucoup les femmes dans le monde entier, elle.
Beyoncé.
La reine Beyoncé, dite Queen Bee, icône dans tous les sens du terme, icône. Ouais. politique aussi de plus en plus. Elle ne l'était pas il y a 10 ans ou il y a 15 ans quand elle a commencé. Et aujourd'hui, elle est de plus en plus militante. Écoutez ce que dit d'elle, ce que dit de Beyoncé, de l'importance de Beyoncé pour les femmes, l'écrivaine Virginie Despentes.
Quand elle est apparue debout avec féministe en lettres de Catherine, moi je trouvais ça absolument enthousiasmant. C'était la première fois qu'on voyait vraiment quelqu'un au sommet de la pop comme Beyoncé nous dire « je suis féministe » et c'est pas discutable, c'est pas négociable, c'est pas « je suis un petit peu féministe, je me sens peut-être éventuellement... » Non, je suis féministe. Et je crois, moi, qu'elle a changé beaucoup de choses.
Elle a changé beaucoup de choses pour les femmes. Bah, Beyoncé, ça a quand même été une icône pendant près de 15 ans. Et c'est sûr que c'est un modèle pour beaucoup de filles, beaucoup de femmes qui ont grandi à cette époque. Parce que je l'ai toujours trouvé très sexy, même très très sexy, sans être vulgaire. Et je me demandais comment elle arrivait à faire, même ne serait-ce que ses lives. Hein, la fille, elle arrive à... Aujourd'hui, la dame, hein, elle arrive à chanter.
La dame, elle est pas si vieille, elle a quoi, 35 ans?
Mais elle va quand même l'appeler madame.
Oui, pas. Alors moi, vous m'appellerez grand-mère.
Ouais, elle a ce truc de... On a l'impression qu'elle est pas humaine, en fait, je pense. Elle est très puissante. Et après, même pour une chanteuse, je trouve que c'est un exemple. Elle a réussi à avoir son côté, faire sa famille, avoir son mari, ses enfants, et en même temps faire durer sa carrière.
Elle dit qu'elle est féministe de plus en plus. Je vous dis, elle ne le disait pas il y a 15 ans. Maintenant, comme dit Virginie Despentes, elle ne tergiverse pas. Elle ne dit pas « je suis un peu féministe peut-être, gna 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 ». Vous, quand on vous pose la question...
Ah, c'est vrai que j'esquive un petit peu, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire être féministe. Enfin, moi, je pars du principe où... En tout cas, de ce que je comprends, c'est quelqu'un qui, une femme qui n'a pas de code, c'est ça.
C'est un combat, c'est une cause, je dirais.
Est-ce que je le suis? Peut-être, sans le savoir.
Peut-être sans le savoir, surtout quand vous dites, je vous cite là, quand une femme donne son avis, on ne l'écoute pas. Quand l'homme parle, on se dit qu'il a raison, même quand son idée est débile.
Comme j'ai dit, peut-être que je l'ai toujours été sans être au courant.
Mais cette question vous emmerde, non? À chaque fois que les journalistes vous demandent est-ce que vous êtes féministe, je sens que ça vous
crispe. Un petit peu, parce que je me dis, le truc c'est que il faut que ce soit moi qui le revendique et pas la personne en face de moi.
Ouais.
T'es une femme, t'es connue, aujourd'hui on te demande est-ce que t'es féministe ou pas. Enfin, je pars du principe où moi j'ai mon combat, je suis moi-même et je trace ma route. Et quand j'ai envie de dire à tout le monde, oui, je suis féministe, j'ai envie d'imposer ce combat-là, je le ferai de moi-même, quoi.
J'ai l'impression que vous n'avez pas envie qu'on vous porte l'étiquette de porte-voix, de porte-étendard, qu'on veut un peu vous politiser d'une certaine manière et vous dites, attendez, laissez-moi, j'ai 25 ans, laissez-moi du temps.
Laissez-moi du temps. Et après, on verra. Et quand j'aurai un autre discours, ça tiendra comme moi.
Il y a 3 ans, a éclaté un mouvement, le mouvement MeToo, le mouvement de libération de la parole des femmes. Les femmes disaient les violences ou le harcèlement qu'elles avaient subi par les hommes. Il y a une chanteuse, Lio, qui était chez Augustin Trapenard sur Boomerang. Écoutez ce qu'elle dit.
J'ai surtout vu comment on m'a traitée. J'ai surtout vu que mon directeur artistique a essayé de profiter de moi après m'avoir fait boire quand j'avais 17 ans. J'ai surtout vu comment me traitaient les autres chanteurs et les blagues salaces qu'on faisait dès que je rentrais dans une pièce. Moi, je m'attendais pas du tout à ça.
C'était un système.
C'est un système.
L'industrie musicale à cette époque-là, précisément.
Mais le monde, tout le monde du cinéma est comme ça. Le monde de la musique est comme ça.
Vous êtes d'accord avec elle ou il a changé le monde de la musique et le monde?
Je pense que le monde est toujours pareil. Hein. On est comme dans un monde patriarcal où c'est toujours l'homme qui a le dessus. Et je pense que on a toujours vu la femme comme pas l'enfant de l'homme, mais celle qui le suit dans ses visions, peu importe qui il est. Il faut toujours que l'homme soit au-dessus. Mais je pense que une femme aussi, ça a beaucoup de pouvoir. Il faut juste qu'on apprenne à les utiliser comme il faut.
Le mouvement MeToo, balance ton porc, vous avez suivi? Vous pensez que c'était bien, toutes ces femmes qui disaient
ça? Ça a servi à dénoncer beaucoup de personnes. Du coup, je pense que ça a servi. C'était très bien.
Vous pensez que ça a fait changer les hommes?
Non, je pense pas.
Ouais.
non, je pense
toutes
pas.
Toutes ces dénonciations, vous pensez pas qu'ils y réfléchissent à deux fois maintenant?
Aujourd'hui, peut-être que ouais. Ça, maintenant, ils vont y réfléchir. Mais je pense pas que la mentalité. des gens changeront. Peut-être qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, maintenant, toutes les femmes peuvent s'exprimer comme elles veulent et ça peut être...
Une arme.
Ouais, ça peut être une arme, mais... Je pense pas que la mentalité de certains hommes a changé.
Vous, en mars 2019, vous avez publié sur vos réseaux sociaux une photo de vous, tuméfiée. Mm-hmm. Vous aviez subi des violences. Mm-hmm. Pourquoi vous l'avez publiée ?
Bah déjà, je l'ai publiée, mais sans forcément attendre quoi que ce soit. Et quand j'ai vu tout ce qui se passait, les médias qui avaient tout repris, etc., je me suis dit, waouh, ah non, je veux plus, en fait. J'avais quand même un peu honte. Je me suis dit, je pensais pas que ça pourrait m'arriver à moi et ouais, je pense que j'ai publié juste parce que j'avais envie de la poster pour dire, oh bah regardez, moi aussi ça m'est arrivé en fait.
C'était votre copain de l'époque qui vous avait
ouais.
Tabassé, on dit, c'est quoi le mot ? Frappé ?
Ouais, on va dire tabassé. Hein.
Tabassé ?
Ouais.
Vous l'avez quitté après ?
Ouais.
Vous avez porté plainte ?
Non.
Mais vous voyez, c'est un acte féministe, par exemple, de publier cette photo. Vous auriez pu la garder pour vous. Dites, j'avais honte.
Et j'aurais pu aussi faire comme tout le monde et raconter ce qui s'était passé, clairement, je pense. Je pense qu'on va dire que j'étais un peu lâche sur ce coup-là.
Vous avez été lâche, c'est-à-dire que vous avez juste mis la photo et vous n'avez pas dit plus ?
Non, j'ai pas dit plus.
Et aujourd'hui, ça, si ça vous arrivait à nouveau, vous diriez plus ?
Ouais, je pense que si ça m'arrivait ou... Bah, en fait, je me dis, si ça arrivait à quelqu'un de... à une de mes proches, bah, je serais révoltée. Donc, pourquoi pas pour moi-même ?
Donc aujourd'hui, vous feriez quoi, par exemple ?
Bah, déjà, je porterais plainte. Et en plus de ça, bah, j'essaierais de faire passer un message de compréhension en disant tout ce qui s'est passé. Mm.
À chaque femme puissante, je demande de choisir une musique, une chanson. Vous avez choisi ça.
Oh, Malé. Ah, ok. C'est mon son. Confession. 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 My confession. 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 Started as a woman's squad. Money control, jelly rich, my front. Any day goes up by shot. I wanna do this, it don't night longer. They plan not to chop locker. My god, it don't begin to python. The way she the treaty, my fuck up. I know I see doctor. See, I got a confession. I got a confession. I got a confession. I got a confession. I wanna tell you my confession. You don't know you be my obsession. This thing you do me not to mention. Don't you see that I am all messed up?
C'est qui ?
C'est un nouvel artiste que j'ai découvert tout récemment et je trouve qu'il a une couleur propre à lui. Genre. C'est un peu soul jazz, un peu afro et je sais pas, j'aime bien sa voix.
Et en quoi ça incarne la puissance des femmes, ce morceau ?
On m'a pas dit ça.
Mais ça pourrait. Il y a une vibe.
On m'a
demandé
un morceau qui me mettait dans de bonne humeur. Du coup, j'ai choisi ce morceau-là.
Bon, bah, très bien, on garde. On le garde.
Voilà.
Votre mère vous disait chanteuse, c'est pas un métier, c'est vrai ?
Moi, je me rappelle, hein. Je n'oublierai jamais.
Pourquoi elle vous disait ça ?
Bah parce qu'elle disait.
Alors qu'elle-même, elle chantait.
Oui, mais parce que c'était pas. Elle vivait pas de ça. En plus, elle sait que c'est un milieu hyper difficile, donc on était en France. Elle se demandait quel style de musique j'allais faire, elle s'inquiétait.
Elle voulait pas que vous le fassiez.
C'est pas qu'elle voulait pas, mais elle était pas pour.
Elle avait peur.
C'était plus ses études, et moi j'étais moins dans les études. J'étais plus à l'école en train de chanter à chaque fois.
Votre mère, elle était griotte, ça veut dire quoi ?
Griotte, c'est quelqu'un qui compte des chansons, enfin le parcours des familles, qui fait les éloges des noms, parce qu'il y a des noms, il y a des castes, et moi je fais partie des castes des griots. Mmh. Et du coup, elle était là, enfin tu vois, dans les fêtes, dans les événements.
Il y a une manière de chanter, de se transmettre la tradition.
C'est ça.
C'est au Mali seulement ou c'est dans toute l'Afrique ?
Non, c'est dans toute l'Afrique. Hein.
Votre mère, c'est une femme puissante, par exemple ?
Ouais, je pense.
Le père, absent ?
Non, il n'est pas absent. Il est là, mais on n'a pas de... Je suis plus proche de ma mère, en fait.
Mais il est fier de vous ?
Je crois, ouais.
Il vous le dit ?
À sa manière. J'ai une relation très spéciale avec mon père qui n'est pas du tout étroite. Elle est distante. Mais on est tout le temps... On se voit souvent, mais on n'est pas... là, se raconter, ah, là, tu vois, j'ai fait ma tournée. Ah, t'as vu mon concert. Ah, t'as vu... Je pense que lui, il est un peu plus pudique.
Il y a de l'amour, quand même ?
Ouais, je pense, ouais.
Vous le dites ou pas vraiment ?
Pas lui, non. plus à ma mère, mes sœurs, etc. On se le dit, mais on a plus... on est toutes comme ça avec lui. Hein, parce qu'il a sa manière d'être mon père.
Mais il n'y a pas des moments où vous sentez qu'il est fier quand même de l'explosion littérale de sa fille dans le monde ?
J'en ai jamais parlé avec lui. Non,
vraiment ?
Jamais.
Mais il vient à vos concerts ?
Non, jamais. Il n'est jamais venu à mes concerts.
Il écoute vos musiques ?
Ouais.
Il vous dit celle-là je l'aime bien, celle-là je l'aime pas ou...
Non, on n'a jamais vraiment parlé de musique.
Ah ouais.
C'est comme si, enfin, il y a les disques à la maison, il y a les trucs, ma mère elle est fière, parce qu'elle elle a toujours aimé faire ça. Mais le truc c'est que peut-être que lui il aurait aimé que je fasse autre chose.
Il aurait aimé que vous fassiez quoi ?
Bah, un métier ordinaire, je pense.
Donc il n'est pas impressionné en fait ?
Je pense que si, aujourd'hui.
Aujourd'hui quand même.
Ouais.
Vous êtes sculpturale, Aya Nakamura, vous êtes grande, vous avez des formes incroyables, vous êtes sexy, vous le savez. Vous utilisez votre corps, comme le fait Beyoncé ou Rihanna, votre corps, votre taille, ça donne du pouvoir ?
Bah, c'est un atout. Ça fait partie du self-love, donc je pense que peu importe la corpulence qu'on a, à partir du moment où, même la manière dont s'exprime notre corps veut dire qui on est.
C'est la natation qui vous a donné ce corps-là ?
Ouais, je pense que si j'avais pas fait de natation, ouais, je serais un peu plus forte.
Ouais.
Ouais.
Alors, vous auriez pu être une championne de natation, mais vous aviez la flemme.
C'est si je lui m'en dis. Non, c'est juste qu'à un moment donné, moi, j'étais plus focus dans la musique. Après, c'est vrai qu'il y a eu les garçons à l'adolescence, qui m'ont un peu déconcentrée. Mais je me voyais pas être sportif toute ma vie.
La flemme, ça revient souvent chez vous. Quand vous voulez pas, quand vous séchez une émission de télé comme Quotidien, vous dites j'avais la flemme.
Non, c'est eux qui ont dit que j'avais la flemme. Moi, j'avais pas la flemme. J'étais dans mon coin, j'avais d'autres choses à gérer et je pense qu'il y a eu un quiproquo et qui ont. Et après, c'est normal, hein, je comprends qu'ils ont mal pris la chose. Hein.
Ouais. Il y a des critiques qui vous blessent ?
Bon, au début, oui. Au début, ça me blessait quand on prenait pas au sérieux mon travail, quand on prenait mes paroles pour du yaourt. C'est sûr qu'on se dit non, j'ai passé des heures au studio, j'ai quand même investi mon temps et c'est dommage que des personnes qui me connaissent pas prennent ça pour de l'amusement.
Après, il y a des critiques qui sont justes et qui sont justifiées. Des trucs qu'on a dit sur vous, vous dites, bon, ils ont peut-être raison.
Bah, après, peut-être des fois sur mon caractère, peut-être.
Qui serait comment ?
Bah, peut-être que des fois je suis un peu, on va dire un peu chiante, mais un peu trop dans ma bulle et ça peut me faire passer pour une diva et c'est bien des fois d'être entre les deux.
Vous vouliez être mannequin ?
Ouais.
Pourquoi ça s'est pas fait ?
Bah, on m'avait demandé de maigrir, du coup, c'était pas possible.
Pourquoi ?
Parce que je voulais pas, avant j'étais hyper mince et j'avais pas envie d'être plus mince que ça, quoi. J'avais l'impression d'être un porte-manteau d'être, ah non, faut que tu maigrisses pour pouvoir porter mes vêtements. Bah non, j'ai envie de défiler parce que mon corps peut aller avec tes vêtements, mais tu me demanderas pas de maigrir. En plus, c'est vraiment pour des parties du corps précises.
Lesquelles ?
Bah, je crois qu'on m'avait dit les cuisses. Ouais, c'était les cuisses qu'on voulait me faire prêtre. Mais comment je perds juste des cuisses, en fait ?
C'est impossible.
C'est un peu bizarre.
Aujourd'hui, les stylistes, j'imagine, ils se battent pour vous habiller, non ?
Peut-être, ouais, je sais pas, mais je fais pas attention à ça.
Comment vous vous habillez ? C'est vos choix ?
Bah ouais, c'est mes choix, ouais. Avec mon équipe de stylisme, ma glam team, on va dire.
Mais c'est important pour vous de vous habiller. Vous vouliez être styliste. Vous aviez fait des études de stylisme, non ?
Bah, j'ai beaucoup dessiné. Ouais. C'est pour ça que je voulais être styliste. Mais quand je suis allée à l'école, j'ai vite découvert que c'était pas juste dessiner. Il fallait faire des croquis, coudre. Et ça demande beaucoup de patience et de concentration. Et c'est pas ce que j'étais le plus à cette époque-là.
Ouais. Vous avez 25 ans et vous avez déjà un enfant. Vous avez une petite fille que vous avez eue à 20 ans. Avoir un enfant à 20 ans, ça n'a pas freiné votre carrière. Vous pensez qu'on peut tout avoir en 2020 comme les hommes, c'est-à-dire une vie amoureuse, une vie familiale et une grande carrière, ou qu'il y a des sacrifices ?
Bah, je pense qu'il y a des sacrifices, comme tout, comme homme et femme. Il faut des sacrifices dans ce qu'on veut faire. Mais le truc, c'est qu'on date beaucoup les femmes. On leur dit beaucoup que toi, tu dois être la mère et tu dois tout le temps rester avec l'enfant parce que tu es sa mère, alors que l'enfant, on le fait à deux. Et je pense que l'éducation, elle doit être bien gérée, c'est tout.
Quelle mère vous êtes ? Sévère, cool, proche, présente, absente, quoi ?
Non, je suis très maman gaga, on va dire. Ouais.
Donc vous passez tout. Vous n'avez pas d'autorité sur votre fille.
Ah bah si, quand même.
Ah oui.
On va dire que je suis très... Enfin, on va dire que je suis un peu trop amoureuse de ma fille, mais... ouais, j'ai toujours ce ton autoritaire. Je suis sa mère et elle reste ma fille.
Et vous êtes présente, vous allez la chercher à l'école.
Ouais, c'est important pour moi.
D'accord. Donc il y a toute une place pour votre vie de mère.
Après, c'est sûr qu'en étant chanteuse, je ne peux pas être là tous les jours, mais j'essaie d'être là un maximum.
Et comment elle voit votre carrière? Comment elle voit le fait que les gens vous arrêtent dans la rue?
Ça m'arrive jamais avec elle. Enfin, pas beaucoup.
Ah ouais?
Je fais en sorte que ça n'arrive pas. Et en plus de ça, quand les gens me voient avec ma fille, ils sont plus distants. Donc ouais, ils font attention. Ou sinon, je leur dis discrètement que je suis avec ma fille, que je n'ai pas forcément qu'elle soit là, qu'elle soit témoin de tout ça. Ça peut être lourd aussi.
Mais elle comprend, elle est fière ou elle est...
Ah bah oui, dès qu'elle me voit à la télé, oh, c'est maman, oh, regarde maman, ou sinon, elle chante les chansons avec moi. Et franchement, c'est pour moi, c'est une sorte de meilleure amie concrète, quoi. C'est trop bien.
Les femmes qui élèvent seules leurs enfants et qui doivent travailler pour assurer les fins de mois parce qu'elles n'ont pas d'argent, ça vous touche? Vous les admirez?
Ouais, moi j'admire. Parce que aujourd'hui, je sais ce que c'est. Même en étant en couple, j'étais quand même débordée. Je me disais, waouh, genre avoir un enfant, c'est une expérience de fou. On s'y attend pas et ça vient comme ça. Mais déjà c'est difficile. Alors plusieurs enfants à gérer toute seule, il faut un certain mental. Donc oui, je les respecte.
Ouais.
Ouais.
Les hommes... Est-ce que les hommes de votre vie ont été jaloux de votre succès?
Non, parce qu'en général, je... Non. Non. Peut-être mes ex, hein, mais... pas ceux que je côtoie.
Ils sont plusieurs? Ou il y en a qu'un?
Non, mais en tout cas, non. Mais jaloux de mon succès? Non, il est très fier.
Alors, les hommes, il y a trois catégories dans le monde d'Aya. Le vrai Joe, c'est le vrai mec qui assume ses choix et ne passe pas par quatre chemins.
Mm-hmm.
En dessous, il y a le Jaja. On suit ce petit menteur.
Le mec à éviter.
Le mec à éviter, c'est le Jaja. Et puis alors, il y a le félon, c'est le pire. Le félon, c'est celui qui veut coucher avec Aya, mais aussi avec ses meilleures copines.
Mm-hmm.
C'est à peu près ça,
la
classification.
Ça, ouais. Ouais, c'est ça.
Et là, en ce moment, vous êtes quoi? Avec un vrai Joe ou un Jaja?
Un vrai Joe.
Le sexe, vous en parlez très facilement dans les chansons.
Tu connais toutes mes positions préférées. Tu me dis c'est quoi la fausse Aya. Dans ce domaine, personne ne peut me déléguer.
Il n'y a pas de question.
Non. je me dis que ça fait partie de la vie. Enfin, quand on est en couple, ça fait partie des choses où on doit être le plus à l'aise et qu'on doit apprécier le plus. Certains diront « Waouh, elle a quand même osé, il y a des enfants qui écoutent, ça se fait pas ». Mais je pense que c'est pas la chanson la plus choquante que les enfants ont écoutée. Hein. J'ai aucun souci à parler de sexe ou j'ai pas de sujet tabou, en fait.
Quelques questions de fin pour terminer, vous répondez spontanément.
Allez.
Alcool, drogue, vous en prenez?
Drogue, non, mais j'aime bien me servir des petits verres de temps en temps.
Mmh. Quels sont vos vices?
Les vices? J'ai pas forcément de vices, mais j'aime bien m'amuser. Je pense que je suis une bonne vivante.
Vous aimez faire la fête?
Ouais.
Avec un peu d'alcool?
Ouais, avec un peu beaucoup d'alcool.
Un peu beaucoup d'alcool. Vous avez souffert de cette année 2020?
Ouais, quand même. On ne peut pas sortir comme on veut, on n'a pas le même style de vie, on ne peut pas voir nos proches comme on veut, on ne peut pas faire de concerts, ça nous prive de tout.
Le monde de la culture souffre énormément, tous les intermittents.
À chaque niveau, tout le monde souffre. Hein.
Ouais. Liberté, égalité, fraternité, vous choisissez quoi?
Oh putain, égalité.
Pourquoi?
Je pars du principe où on est tous différents, mais c'est bien aussi qu'on se comprenne et qu'on arrive à vivre ensemble.
Dernière question, la question Jacques Chancel. Et Dieu dans tout ça?
Ouais, moi je suis croyante, ouais. Je pense que c'est important d'avoir une base où même il y en a qui croient en la nature. Moi je crois en Dieu.
Vous êtes chrétienne, vous êtes musulmane?
Non, je suis... Je crois en moi. Voilà. Moi je crois au destin. Je pense que rien n'arrive par hasard. Je pense que tout le monde a son étoile.
Merci beaucoup, Aya Nakamura. Merci d'avoir été aussi sincère, aussi cash.
J'ai essayé.
Ouais.
Merci à vous. She keeps them away, Chandler, in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building remedy for Khrushchev and Kennedy. And it's time an invitation you can't take. Cigarettes, well-versed
She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China went down to Geisha Minor. Then again, incidentally, she that way. Perfume came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less. Fastidious and precise.
She's a killer queen. Gunpowder, gelatine. Dynamite with a laser beam.
Guaranteed to blow your mind. Temporarily out of action, temporarily out of gas. You're absolutely dry. She's out to get you.
She's a killer queen. Gunpowder, gelatine. Dynamite with a laser beam.
Guaranteed to blow your mind.
And it's
you recommended at the price. Insatiable and appetite.
Wanna try?
Voilà, c'était Killer Queen de Queen. Merci d'avoir écouté Femmes Puissantes. À la préparation, Paola Poerari, Marie-Elisabeth Jacquet, Maud Ventura. À la prise de son, Jérémy Tuile. À la programmation musicale, Jean-Baptiste Audibert. Et à la réalisation, Anna Bui. Bon dimanche aux Femmes Puissantes et aux autres. Et la semaine prochaine, notre invitée, c'est la colonelle Karine Lejeune.
Je fais un métier d'autorité, je fais un métier de sécurité, mais je ne fais pas un métier d'homme.